Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ordinairement, l'Église, en ce jour du 7 mars, fête le docteur commun et patron des études, Saint Thomas d'Aquin. Et si la célébration de ce grand saint est reportée à demain pour laisser place à l'office de dimanche, l'œuvre de ce docteur, la lecture de l'Évangile que nous venons d'entendre, et puis les œuvres traditionnelles du carême concordent en un point. Notre divin Sauveur, Saint Thomas, et l'Église nous encouragent aujourd'hui à l'étude de la doctrine. Il nous exhorte à consacrer une partie de notre temps pour nous instruire de la vérité sacrée. Quel trésor, en effet, que celui de la prédication. Nous la tenons de la bouche même de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme le dit saint Paul, après avoir, à plusieurs reprises et en diverses manières, parlé autrefois à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. Et non seulement nous tenons le dépôt de la foi, les mains même de notre Seigneur, mais c'est pour cela, c'est pour donner aux hommes les trésors de la révélation que notre Seigneur est venu, que la sagesse incarnée, que la sagesse éternelle s'est incarnée, comme il l'affirme lui-même devant Pilate. Je suis venu en ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Et ailleurs, devant les Juifs, je suis venu en ce monde comme une lumière afin que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. De tout notre cœur, donc, nous devons adhérer à l'enseignement de l'Église par la foi. Car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais en plus de cette vertu, il faut y joindre une étude persévérante. Un vrai chrétien, un chrétien digne de ce beau nom, ne saurait se contenter d'une connaissance superficielle des vérités de la foi, comme le remarque très bien saint Jean Chrysostome. Nous nous offensons quand quelqu'un n'écoute pas ce qu'on dit, quelque inutile que soient d'ailleurs nos propos. Et Dieu demeurerait indifférent lorsque nous ne nous intéressons pas aux grandes vérités qu'il nous annonce. Si les progrès fulgurants de la science et la surabondance des biens matériels qu'elle a engendrés, si toutes les richesses du monde ensemble ne valent pas une seule bonne pensée utile pour notre salut, la foi, elle, et la sainte doctrine peuvent sauver notre âme si nous la mettons en pratique. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Car la parole de Dieu est un feu qui éclaire notre route vers le ciel, qui consume et détruit toutes les influences de ce monde de ténèbres, et qui enflamme notre cœur aux ardeurs de la charité. Une révélation toute divine nous était en effet absolument nécessaire pour notre salut. Saint Thomas l'explique très bien dans le tout premier article de sa Somme théologique. Je le cite. Il fut nécessaire pour le salut de l'homme qu'il y eut, en dehors des sciences philosophiques que scrute la raison humaine, une doctrine procédant de la révélation divine. Le motif en est d'abord que l'homme est destiné par Dieu à atteindre une fin qui dépasse la compréhension de son esprit. car, dit Isaïe, l'œil n'a point vu au Dieu en dehors de vous ce que vous avez préparé à ceux qui vous aiment. Or, il faut qu'avant de diriger leurs intentions et leurs actions vers une fin, les hommes connaissent cette fin. Il était donc nécessaire pour le salut de l'homme que certaines choses dépassant sa raison lui fussent communiquées par révélation divine. Autrement dit, si par exemple je veux aller à Paris, eh bien je dois savoir où se trouve Paris et je dois connaître les chemins qui y mènent. Or, le but de notre vie, de la vie humaine, c'est le ciel. Mais par notre pure raison humaine, sans un secours, sans une révélation de Dieu, on ne peut pas connaître le ciel. Le ciel nous dépasse, évidemment. Alors, il a fallu que Dieu vienne nous révéler le ciel, qui est lui-même. Le ciel, c'est la vision de Dieu. Et puis le chemin qui y mène, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la voie, et les vertus qui nous unissent à notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, Dieu nous a aussi révélé les obstacles qui nous empêcheraient d'atteindre le ciel, le péché, le démon, le monde, la chair, la triple concupiscence. Or, vous le savez bien, chers fidèles, notre route vers le ciel est jalonnée d'obstacles. Et souvent, on rencontre des situations compliquées et presque inextricables. Ce fut vrai de tout temps, parce que l'homme et puis la vie humaine sont des choses complexes, mais aujourd'hui, en ce temps d'apostasie générale, en cette crise de l'Église, dans l'Église, eh bien, c'est particulièrement compliqué. Alors, pour compenser cette situation plus difficile, eh bien, on doit y répondre par une connaissance plus approfondie de la doctrine qui nous permet de nous guider au milieu de tous ces obstacles. Que de fois, en effet, ne nous est-il pas arrivé de nous demander quelle est concrètement, dans tel ou tel problème, la volonté de Dieu sur nous ? Et des fois, la réponse n'est pas facile. Et pour bien y répondre, pour bien comprendre ce que Dieu attend de nous, eh bien, il faut connaître la doctrine qui nous dit justement ce que Dieu nous demande d'une manière générale. Et ensuite, on pourra appliquer cette doctrine à notre vie particulière, à telle ou telle situation rencontrée. Mais le chrétien qui est peu instruit de sa foi ressemblerait à un voyageur, à un pèlerin, qui, par négligence, ne se munit que d'une carte imprécise et incomplète, une de ces vieilles cartes qui semble datée de la création et fort peu pratique. Alors un tel voyageur arrivera peut-être à destination, il arrivera peut-être à l'heure, mais peut-être pas aussi. Peut-être qu'il se sera égaré en chemin. Et puis, s'il arrive, ce sera après avoir fait de nombreux détours. Peut-être même aura-t-il dû rebrousser plusieurs fois chemin, parce que la carte n'était pas si précise, il ne savait pas exactement où il était, quel chemin prendre. Eh bien, pour le chrétien plus instruit, nous l'avons dit, c'est un petit peu la même chose. Si on connaît mal la doctrine, si on connaît mal les obstacles qui peuvent jalonner notre route, si nous ne savons pas bien comment pratiquer telle vertu, comment le démon nous tend dans telle ou telle situation, comment répondre à telle situation un peu compliquée, eh bien, facilement, nous allons nous égarer, facilement, nous allons pécher. Parce que les péchés qui sont entraînés par une ignorance coupable ne sont pas excusés. Parce que l'ignorance est vraiment coupable, parce qu'il y a une négligence. De même qu'un médecin, s'il a négligé d'étudier son art et qu'à cause de cela, il a tué son patient par incompétence, eh bien, il ne sera pas excusé, innocenté par la justice humaine. Eh bien, de même pour le chrétien, si par sa faute, par sa négligence, il n'aura pas su faire le bien que Dieu exigeait de lui, il n'aura pas su éviter le mal, parce qu'il ne le connaissait pas, ou d'une manière très imprécise, parce qu'il ne s'est pas tellement intéressé à ces choses, eh bien, il ne sera pas innocenté par la justice divine. Alors, vouloir réellement et efficacement le salut de notre âme, c'est vouloir prendre le temps de s'instruire des vérités de notre foi. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Mais étudier régulièrement la sainte doctrine comporte un autre avantage. Cela entretient de saintes pensées. La santé de notre corps dépend, pour une large part, de la nourriture que l'on mange. Parce que ces aliments, eh bien, nous allons les absorber et ils deviendront notre propre chair, notre propre sang. Eh bien, pour la vie de l'âme, c'est un peu la même chose. Elle dépend, pour une large part, de nos lectures. Parce que, naturellement, l'esprit s'approprie ces lectures et ensuite on pensera à cela, à ce qu'on a lu. D'ailleurs, vous remarquez bien que généralement, nos pensées roulent autour de ce qu'on a lu, de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a vu dernièrement. Alors, si nous passons notre temps devant des films inutiles et vains, si nous prenons du temps à lire des romans futiles, eh bien nos pensées seront vaines, inutiles et futiles. Si nous regardons des choses dangereuses, eh bien nous serons tentés, nous aurons dans notre esprit des pensées dangereuses. Si nous écoutons les médias menteurs, eh bien notre tête sera remplie de mensonges et on se trompera, on s'égarera à cause de ces erreurs qui sont en nous. Mais heureusement, s'il en est ainsi pour le mal, il est aussi ainsi pour le bien. Si nous faisons de saintes lectures, eh bien nos pensées seront remplies de Dieu. La présence de Dieu viendra en nous tout naturellement, tout aisément. Car la doctrine chrétienne tend tout entière vers Dieu, comme le remarque si bien saint Thomas, toujours dans la Somme théologique. Dans la doctrine sacrée, dit-il, on traite tout sous la raison de Dieu, ou du point de vue de Dieu, soit que l'objet d'étude soit Dieu lui-même, soit qu'il ait rapport à Dieu comme à son principe, par exemple si on étudie la création, Dieu est le principe de la création, ou comme à sa fin. Par exemple, lorsqu'on étudie les vertus ont pour fin de nous acheminer à Dieu, dans le ciel. Et puis, troisième avantage, l'étude de la vérité sacrée enflamme nos cœurs d'amour pour Dieu. Car Dieu est infiniment aimable. Tout en lui n'est qu'amour. Deus caritas est. Dieu est charité. Et tout en lui nous conduit à l'amour. Omnia traam ad me ipsum. J'attirerai tout à moi. Et si nous aimons si peu le bon Dieu, c'est parce que nous le connaissons mal. Saint Thomas explique que la raison profonde pour laquelle les bienheureux au ciel ne peuvent pas pécher, ne peuvent pas se détourner de Dieu, c'est parce qu'ils voient la Sainte Trinité face à face. Ils comprennent réellement que Dieu est infiniment bon, infiniment aimable, et alors sa possession comble entièrement tous leurs désirs. Ils sont remplis de Dieu, un peu comme un vase qui est plein à déborder. On ne peut plus y rajouter une seule goutte d'eau. Bien, pour les bienheureux, c'est la même chose. Ils sont tellement remplis de Dieu, ils voient Dieu face à face, ils se rendent compte combien il est bon, et alors ils ne peuvent plus rien aimer en dehors de lui. Et tout ce qu'ils aiment, eh bien, ils l'aiment en Dieu, pour Dieu. Et alors, ils ne peuvent pas pécher. Ils sont fixés dans l'éternité, dans l'amour de Dieu. Et alors, nous devons essayer de leur ressembler autant que possible. Déjà, la grâce en nous est le germe de la gloire. La vie présente contient déjà, d'une certaine manière, la vie éternelle, si on a la grâce. Nous ressemblons, d'une certaine manière, aux bienheureux. Alors, on doit chercher à améliorer toujours cette ressemblance. Et l'un des grands moyens, c'est de connaître mieux le bon Dieu afin de l'aimer davantage. Oui, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. En conclusion, pénétrons-nous des splendeurs de la vérité sacrée. Prenons un peu de temps tous les jours, 15 minutes tous les jours, si possible, pour nous plonger dans cet abîme de richesses magnifiques. L'une des œuvres traditionnelles du carême, un père vous le rappelait au début de ce temps liturgique, c'est justement de s'instruire. Et si ce n'est déjà fait, eh bien, prenons de salutaires résolutions. Retranchons de nos journées, de ces plaisirs futiles et inutiles, pour consacrer davantage de temps à remplir notre esprit des réalités éternelles. Que Notre-Dame, gardienne de la foi et mère du Verbe incarné, nous obtienne cette grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.